Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 319 du podcast Odds On Actuel. On m'a très heureux de vous retrouver pour la preview de la semaine 10 de NFL. À mes côtés, Raphaël Masmejean, bonjour.
Salut, salut à tous.
Et petite précision, nous sommes en direct et en public, la vidéo est en public, c'est ça que je veux dire, je vais y arriver. Sur YouTube, c'est une exclusivité on va dire pour nos abonnés, il n'y a qu'eux qui ont la notif et ils savent quand on enregistre, parce qu'on n'enregistre pas toujours à la même heure le jeudi. Et bien là, bim, vous avez la notif, vous pouvez nous regarder en direct pendant qu'on enregistre, et puis les autres évidemment vous avez le podcast, mais c'est une incitation à s'inscrire à notre chaîne YouTube et à s'abonner, c'est pas bête ça. Raphaël, l'émission du jeudi qui vous est présentée par Unibet, tous les paris en ligne sur la NFL c'est Unibet évidemment, on a le petit mug avec nous à chaque fois. Je le mets parce que hop regarde, je le mets plus devant comme ça, hop là, vous avez le mug Unibet. J'ai le même à la maison, c'est véridique, je bois mon café dedans. Je suis corporate non mais pour de vrai j'en ai un à la maison comme ça. Unibet, et vous pouvez regarder les matchs en streaming sur Unibet aussi cette année, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. On a un énorme choc au programme cette semaine pour l'affiche de la semaine, Raphaël, avec les 49ers qui vont essayer de prendre le pouvoir dans la NFC West pour de bon, et dans la NFC ils l'ont déjà, mais de conforter cette place sur le trône. Plein de petites affiches très intéressantes aussi cette semaine, et puis les pronostics, les cotes, le programme habituel, c'est maintenant et c'est parti. Seattle Seahawks, San Francisco 49ers d'abord, puisque ça se passe à San Francisco. 8 victoires, 0 défaites. Seahawks, 7 victoires, 2 défaites. Choc de l'AFC la semaine dernière avec le Ravens Patriots. Là, on a un beau choc de la NFC cette semaine avec ce 49ers Seahawks. C'est même un choc de division NFC West qui a produit 4 des 7 derniers représentants de la NFC au Super Bowl, la NFC West.
Ouais,
plus de la moitié des derniers représentants. C'est la division avec le meilleur bilan de victoire depuis 2012 dans toute la NFL. Donc on a vraiment une lutte au sommet. Les 49ers sont favoris des bookmakers. 49ers favoris, ça fait beaucoup de F. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Oui, sur le papier, depuis ce qu'ils ont montré, avec ce qu'ils ont montré depuis le début de saison. Ils sont favoris parce que la défense a un très haut niveau, notamment la ligne défensive, mais même le backfield défensif se débrouille bien. Et on voit que cette attaque, par son jeu au sol notamment, et même la semaine dernière avec Jimmy Garoppolo, avance globalement bien. Donc ils ont une des meilleures défenses, une des bonnes attaques de la ligue, alors que peut-être Seattle, depuis le début de saison, est efficace en attaque, on l'a vu à l'image de Russell Wilson. Par contre, en défense, c'est un peu plus léger cette année du côté de Seattle à ce niveau-là. Donc, sur le global, sur ce qui a été montré depuis le début de saison, c'est pas étonnant que les 49ers soient favoris pour ce match.
Tu l'as dit, ils ont la meilleure défense globale en NFL, 241 yards seulement encaissés par match. Ils ont la meilleure défense contre la passe, 138 yards encaissés par match. Seattle a la quatrième attaque aérienne. Donc là, on a déjà une des premières clés. Test pour la couverture aérienne des 49ers. Avec Richard Sherman qui retrouve son ancienne équipe. Bon, alors, ils ont déjà vu deux fois l'an dernier.
Ouais,
c'est pas les premières retrouvailles, mais ça reste quand même quelque chose. Gros test pour donc Russell Wilson et son attaque d'un côté. On l'a dit, avec des choix de jeu pas toujours très inspirés ou originaux face à la défense des Niners. Qui, d'après toi, a l'avantage dans ce match-up là ?
C'est compliqué parce que c'est difficile en plus de prendre que les cornerbacks des 49ers parce qu'ils bénéficient d'un gros travail sur la ligne défensive des Nick Bosa, Armstead, Buckner et tout ça, face à une ligne offensive de Seattle qui reste bien fragile malgré tout. Je crois qu'elle doit être en nombre de sacs accordés, ils doivent être 26e cette saison.
J'ai pas le niveau, mais je crois qu'ils en ont autorisé 22 si je dis pas de bêtises.
Ouais, il me semble qu'ils sont 26-27e dans la ligue. Donc globalement, le match-up peut paraître défavorable. Maintenant, on a quand même un quarterback qui est capable de prolonger les actions et les jeux. On a un Taylor Lockett qui sort de sa meilleure saison. Un DK Metcalf, le rookie, qui s'est montré assez impressionnant quand même depuis le début de saison, qui peut aussi jouer des mauvais tours. Josh Gordon sera-t-il là? Je ne sais pas, mais ça rajoute un facteur potentiel parce que sa vitesse, sa capacité, il a quand même fait de belles choses partout où il est passé, même s'il a du mal à confirmer sur la longueur. Mais c'est un match-up qui peut paraître défavorable, mais je ne serais pas étonné que les Seahawks trouvent la clé sur celui-ci. Quoi.
Et puis, Russell Wilson trouve des solutions avec ses tight ends souvent. Mmh. Et Quan Alexander est blessé du côté de San Francisco. Il y aura un linebacker rookie. Donc, ça peut être un élément. Après, c'est ce que tu disais, la ligne offensive de Seattle va se prendre en face ce front seven des Niners, qui est l'équipe numéro 1 NFL pour mettre la pression. Ils mettent la pression sur 31,8% des tentatives de passe adverse. Ils sont numéro 1 là-dessus.
Ah non, c'est impressionnant depuis le début de la saison ce qu'ils arrivent à faire à ce niveau-là. J'ai envie de dire presque l'avantage pour Seattle, c'est que Russell Wilson a l'habitude de jouer.
C'est vrai.
Il sera pas surpris. J'ai envie de dire, c'est pas par exemple un Tom Brady cette année qui doit faire avec les blessures sur sa ligne offensive et qui prend peut-être un peu plus l'impression que l'an dernier. Là, Russell Wilson a quand même cette fâcheuse habitude et cette mauvaise habitude de jouer avec cette pression-là. Donc, à quelque part, il sait aussi faire. Il est quand même à 22 touchdowns pour une interception. Donc, il peut être capable d'ajuster. Après, effectivement, 31% sur 31% des snaps, c'est quand même beaucoup.
C'est beaucoup, ouais.
Si c'est même amplifié là, ça va quand même en être difficile. Donc, le facteur, comme souvent, ça pourrait peut-être être du coup le jeu au sol de Seattle, comment ils arrivent à avancer face à cette défense des 49ers qui paraît un peu moins forte contre la course. D'autant plus, comme tu l'as dit, la blessure de Nona Alexander, le linebacker, qui pourrait impacter aussi la défense contre la course.
Je crois que tu l'as bien résumé, c'est que le match-up est défavorable pour Seattle, mais c'est l'occasion pour Russell Wilson de justifier plus que jamais le titre de MVP qu'on lui a donné.
Ouais, pour justifier. Et je pense que, et c'est peut-être moi ce qui me fait un peu peur par rapport, on en parlait au play calling des Seahawks. J'ai peur que Seattle, se disant c'est plus facile de courir contre les 49ers, court un peu trop et oublie qu'ils ont Russell Wilson en quarterback. Pense qu'il y a un moment, là, Russell Wilson, vu la forme dans laquelle il est, il faut lui donner la balle et il faut le laisser lancer. Et. Il se passera ce qui doit se passer, mais faut pas que les Seahawks tombent dans le piège de n'essayer que de courir, à mon avis, ça serait une grosse erreur. Mais...
Dans l'autre sens, les Seahawks, eux, sont 31e pour mettre la pression sur le quarterback adverse. Seulement 15,5% des tentatives de passe où ils arrivent à mettre la pression sur le quarterback adverse. Seulement 9 sacks en 9 matchs. Alors que la ligne des Niners sur le papier est quand même meilleure que celle de Seattle, même s'il y a eu des blessures cette saison, ça va être aussi ça un des problèmes. En tout cas, dans l'autre sens, la défense de Seattle ne semble pas avoir l'avantage non plus.
Clairement.
Et avec cette grosse inconnue, comment ils stoppent ce jeu au sol des 49ers, qui est deuxième dans la ligue, quasiment le meilleur jeu au sol de la ligue si tu enlèves Baltimore qui est hors concours, qui est dans cette catégorie-là. Quoi.
Oui, non, tu l'as dit. C'est même le point le plus inquiétant, clairement, pour Seattle sur ce match. C'est la capacité de sa défense à stopper les 49ers qui ont montré qu'ils sont capables de trouver des solutions quand le jeu au sol ne marche pas, de passer au niveau de la passe. Mmh. Qui pourra arrêter Greg Kittle du côté de la défense des Seahawks? Ce jeu au sol, comme tu l'as dit, où le danger peut venir de Tevin Coleman, de Matt Breda, de plusieurs coureurs. Sincèrement, je pense que la défense de Seattle n'arrivera pas spécialement à stopper cette attaque. Je pense que les Seahawks vont devoir aller le chercher en attaque et par Russell Wilson. Ils peuvent le limiter, c'est un match de division, c'est toujours un peu plus dur. On sait que des fois les contextes sont un peu particuliers. Tu peux avoir un gros match d'un Bobby Wagner qui sort un peu de sa boîte, un Jadeveon Clowney qui reste des superstars capables de faire des big plays, donc ça peut basculer, mais je pense que les Seahawks vont devoir aller en attaque sur ce match, parce que leur défense, à l'heure actuelle, moi je ne les vois pas tant capables que ça de stopper cette attaque.
Donc, c'est la 25e défense générale sur les yards en NFL, et ils ont quand même pris un sacré bouillon contre Jameis Winston et les Buccaneers la semaine dernière, ils vont en prolongation à cause de ça.
Ils vont en prolongation à cause de ça, effectivement, parce qu'ils sont incapables d'arrêter Jameis Winston et Mike Evans, notamment. Ils sont même pas capables de provoquer de perte de balles de la part de Jameis Winston.
Une. Ce qui est rien du tout pour Jameis Winston.
Et qui est plus créé par Jameis Winston lui-même que par une grosse pression. Donc, ce côté-là, effectivement, ça sent pas très bon pour eux. Après, j'ai envie de dire qu'Emmanuel Sanders, à l'heure actuelle, c'est quand même moins fort que Mike Evans aussi.
Oui. Il y a une bonne connexion, mais
c'est quand même moins fort.
C'est moins fort.
Mais ça va être difficile en défense, ça va être très difficile.
C'est donc, encore une fois, des match-up qui sont quand même vraiment plutôt en faveur de San Francisco dans ce match. Mais on a des talents énormes du côté de Seattle. Russell Wilson, tu l'as dit, Jadeveon Clowney, Bobby Wagner.
Je pense qu'en termes de talent, pas pur sur l'ensemble de l'effectif, mais les plus gros talents sont malgré tout du côté de Seattle.
C'est vrai que si tu fais la liste des meilleurs joueurs de ce match,
Bobby Wagner, Russell Wilson, rien qu'avec ces deux-là, ils sont pas loin d'avoir les deux joueurs les plus talentueux du match de leur côté. Jadeveon Clowney, je pense que c'est peut-être même le trio le plus talentueux de ce match. Ils sont pour Seattle.
Oui, et puis même sur les receveurs, tu parlais de Sanders, mais ils ont quand même Metcalf et Lockett qui sont en grande forme.
Actuellement, je trouve Lockett bien meilleur que Emmanuel Sanders. Donc voilà, le sport, c'est aussi ça des fois. Les grands talents font la différence et ça peut basculer aussi comme ça.
Et puis on l'a vu, alors dans toute proportion gardée, je ne dis pas du tout que c'est ce qui va arriver aux 49ers, mais on l'a vu avec les Packers la semaine dernière. Tu peux aussi avoir un match sans. Ils sont à la 10e semaine, ils jouent très bien, ils peuvent avoir un match où ils ont un coup de moins bien, où ils perdent un ou deux ballons de plus, où ils avancent un peu moins.
Arriver,
donc
c'est sûr,
ça peut arriver aussi. Pronostic.
Pronostic, écoute, je vais partir sur Seattle. Honneur au possible futur MVP.
Monsieur est joueur.
Ouais.
Monsieur est joueur. Je vais dire les 49ers quand même parce qu'il y a l'avantage sur un peu tous les match-up et je ne suis pas très très rassuré des fois par les choix de Seattle. Donc face à une équipe qui est bien affûtée et bien en place, je vais jouer la prudence et dire les 49ers. Voilà pour la fiche de la semaine, on passe au pronostic. 60 minutes, win this game for one another. Alors pourquoi dis-je monsieur est joueur? C'est parce que Raphaël Masmejean, au moment où on se parle, est dernier du classement des pronostics. Ça, alors, on se posait la question avec Camille en préparant. Ça n'a pas dû arriver souvent.
Non, c'est pas arrivé
souvent.
Alors,
après, à l'époque, on n'était que deux, peut-être un peu plus souvent.
Oui, peut-être, mais depuis qu'on fait ces concours à 3-4, ouais, non, c'est pas arrivé.
Là, c'est voilà. Donc, la semaine dernière.
J'en retirerai toutes les...
Bah non, quand même.
Non.
Ne nous quitte pas pour ça.
Non.
On peut très bien y survivre plusieurs années de suite.
Je suis meilleur joueur que Lionel.
Ouais, et puis moi qui suis extrêmement mauvais joueur, je ne suis jamais parti. Même si je t'avoue qu'il y a des moments pendant l'année où là, il y a quelques semaines, quand j'étais mené encore, je me disais, franchement, il va falloir que j'arrête au fur. Si je me fais toller 50 suites, au bout d'un moment, il est peut-être temps de tirer les conséquences aussi.
Je me pose en juge.
Donc, la semaine dernière, 6 pour toi, Raphaël, 6 pour moi aussi, 7 pour Camille, 8 pour Grégory, 8 pour Raoul. Ça veut dire que Raoul continue.
Raoul, il est on fire.
Ouais, Raoul, il est en feu. Il est à 90. Grégory, 86. 80 pour moi, 80 pour Camille aussi et 79 pour toi.
Au rythme où ça va, on peut même pas la rattraper en playoff.
Mais ouais, Raoul, il nous a mis 10 points à Camille et moi et 11 à toi. Et il y a que Grégory qui a 4 et qui s'accroche encore. Mais ouais, il va falloir qu'on trafique vraiment les scores de playoff cette année pour entretenir le suspense. Mais il est en feu comme jamais, Raoul. Donc, les pronos cette semaine. On commence avec le match qui a lieu dans la nuit du jeudi au vendredi. Donc, si vous nous écoutez vendredi, le match a déjà eu lieu. C'est entre les Raiders, 4 victoires, 4 défaites, les Chargers. 4 victoires, 5 défaites, les deux équipes sortent d'une victoire. Les Chargers ont été très convaincants. Évidemment, si ça dure avec le matos qu'ils ont, ils sont favoris de ce match.
Ils sont favoris de ce match si ça dure, comme tu le dis, parce que défense plus complète que celle des Raiders, surtout notamment au niveau de la défense. Hein. Je trouve qu'il y a une vraie différence à ce niveau-là. Maintenant, les Raiders sont pour eux d'être constants et réguliers depuis le début de la saison. De match en match, en proposant ce qu'ils savent bien faire, bien courir, ne pas trop perdre de ballon, alors que les Chargers, eux, nous font des montagnes russes semaine après semaine. Je vais aller sur les Chargers pour une question de talent et en me disant que la victoire face à Green Bay est peut-être l'élément déclencheur de leur saison qu'on attendait. Mais ça peut être serré.
Je suis d'accord avec toi, tu as raison de préciser que ça se joue sur la défense. Je pense en effet, Joey Bosa à 8 sacs et demi, il a un peu passé la seconde. Il va y avoir un beau duel avec la ligne offensive des Raiders, qui joue bien depuis le début de l'année. Mais c'est vrai que sur l'attaque, les Raiders n'ont pas grand-chose à leur envier, parce que tu as un Josh Jacobs qui est très régulier, au contraire des coureurs et du jeu en général des Chargers. Josh Jacobs est régulier, il porte l'attaque carré et propre, donc c'est vrai qu'ils n'ont pas grand-chose à leur envier sur la régularité offensive. Même s'ils ont moins de talent, en un sens, parce qu'ils n'ont pas un Keenan Allen ou quelque chose comme ça à la réception. Mais c'est vrai, je vais prendre les Chargers pour les mêmes raisons que toi, c'est-à-dire le talent global, mais attention quand même. Coup d'envoi dimanche à 19h, c'est les Cincinnati Bengals à 0 victoire à 8 défaites contre les Ravens à 6 victoires, 2 défaites. Alors, je te donne la stat.
Je pense savoir laquelle. Mais...
Voilà, les Bengals ont la dernière défense au sol, les Ravens sont la première attaque au sol.
Voilà. Je vois vraiment pas comment Cincinnati peut s'en sortir sur celui-là avec sa défense au sol.
Alors, l'événement quand même de ce match, c'est la première titularisation de Ryan Finlay qui remplace Andy Dalton. Donc c'est le sixième lanceur rookie titularisé cette année et il a été choisi au quatrième tour de la dernière draft en 104e position pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais voilà, il se retrouve en plus, alors on parlait des problèmes que va avoir sa défense, il se retrouve face derrière une mauvaise ligne offensive, face à une équipe coachée par John Harbaugh. Alors c'est pas la même défense que ces dernières années, mais ça reste les Ravens, et avec Earl Thomas qui attend de l'intercepter, quoi.
Earl Thomas, Marcus Peters et Marlon Humphrey qui font une grosse saison. Ça peut être un match compliqué pour le rookie. Baltimore, sauf accident industriel, quoi.
Baltimore aussi. Cleveland Browns, 2 victoires, 6 défaites. Buffalo Bills, 6 victoires, 2 défaites. Alors, cette ligne des Browns et cette attaque un peu en vrac contre la belle défense de Buffalo, ça, c'est quand même un problème. Il y a encore moyen qu'ils passent une mauvaise soirée, les Browns.
Il y a moyen qu'ils passent une mauvaise soirée, surtout Baker Mayfield, au niveau de sa ligne offensive, qui risque d'être bien en difficulté face au front 7 des Bills. Mais en même temps, ça peut être serré parce que on connaît ces Bills, s'ils n'arrivent pas à enchaîner en attaque. Est-ce que Cleveland, malgré tout, n'est pas capable d'aller mettre 15-16 points sur ce match pour aller le remporter, tu vois,
sur le papier, oui. Il y a le retour de Kareem Hunt. Je ne sais pas si ça va aider en plus, mais ça peut apporter une dimension de plus.
Je
ne
sais pas, parce que Nick Chubb au sol se débrouille quand même globalement bien. Donc,
Mais bon, c'est encore plus d'armes.
Je vais partir sur Buffalo parce qu'on les sous-estime un peu et que sur leur dynamique, elle est tellement meilleure que c'est dur de parier là contre eux face à une attaque qui se cherche vraiment. Mais attention, parce que si Buffalo continue à juste marquer 14-15 points par match, ça passera pas tout le temps.
Je vais dire les Bills, et encore une fois, je te suis, ce serait pas une surprise que Cleveland gagne.
Ouais,
mais voilà, Buffalo nous fait mentir régulièrement, donc là, pour le coup, on va quand même
Buffalo parler, a le mérite de battre les mauvaises équipes depuis le début de la saison, donc d'être régulier à ce niveau-là.
C'est ça. Bah là, clairement, s'ils enfoncent Cleveland encore, à 2-7 Cleveland, ça va faire mal. Les Bears à 3 victoires, 5 défaites contre les Lions à 3 victoires, 4 défaites, 1 nul. Les seules équipes qui ont une attaque moins productive que les Bears sont
Jets et Dolphins
et les Redskins.
Redskins, bon,
c'est pas tout à fait la compagnie dans laquelle t'as envie d'être cité quand tu croyais prétendre aux playoffs.
Non, c'est sûr.
Les Lions sont quand même l'avant-dernière défense de la ligue sur les yards concédés. Ça a beaucoup ouvert les portes ces derniers temps. Mais Détroit paraît quand même avoir plus d'armes offensivement, quoi. Matthew Stafford, Kenny Golladay.
Matthew Stafford en excellente forme en plus, on l'a dit la semaine dernière. Ils ont plus d'armes, c'est sûr.
C'est vraiment le match de division typique match piège de division. Pour les pronostics.
Moi, le pire, je vais aller sur Chicago parce que si je dis pas de bêtises, ils sont à domicile.
Oui.
Ils se débrouillent quand même un poil mieux quand ils sont FedEx Soldier Field, mais je vais aller sur Chicago, mais bon.
Moi, je vais dire les Lions parce que je reste droit dans mes bottes sur ce que je pense des Bears, mais... Ouais, c'est match de division totalement piégeux sur les pronos. Franchement, c'est pas vraiment mes préférés. Le derby de New York, les Jets, une victoire, 7 défaites pardon, contre les Giants, 2 victoires, 7 défaites. Oui, grosse affiche. Grosse affiche. Le choc de New York, je sais pas si on peut dire le choc à ce niveau-là.
Le choc Adam Gase, Pat Shurmur.
Exactement.
En temps de coaching de haut niveau.
Ça. Mais choc, ça, c'est trop impressionnant. Je sais pas comment dire. La collision. on va dire c'est la collision entre ces deux équipes. Les deux équipes marquent moins de 20 points par match, les deux équipes prennent plus de 26 points par match. Je t'épargne les ratios de turnover, -10 pour les Giants, -7 pour les Jets. on est sur du
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Du football de qualité là.
Ah oui.
Là on va être sur du.
Là, y a de la qualité,
voilà, ça, là ça va être du propre. Bon, je cherche les motifs d'espoir. Je regardais du côté des Giants, il y a 2 fumbles forcés en 2 matchs pour Jabril Peppers. Il y a Leonard Williams qui a été signé. Peut-être qu'ils trouvent des petits playmakers défensifs.
Ouais, et peut-être malgré tout, leur attaque a l'air de mieux se tenir que celle des Jets à l'heure actuelle.
Oui.
Qui est quand même dans une panade offensive assez importante. Donc j'ai envie de penser que Saquon Barkley, qui est revenu juste la semaine dernière, là, peut enchaîner un peu plus sur ce match face à la défense des Jets. Donc je vais aller sur les Giants. Dans la nullité, il me paraît un peu meilleur que ces Jets-là.
En fait, moi, j'ai dire les Giants aussi pour ça, parce que en fait, leur attaque est parfois aussi fouillée et maladroite et tout ça, mais tu as l'impression qu'il y a quand même une direction dans ce qu'ils font. Ils ont le quarterback qu'ils ont mis en place avec des cibles.
Cette saison, ils sont déjà allés chercher un match ou deux au-delà des 20 points.
Oui, ils peuvent, ouais,
parce que les Jets n'ont pas encore vraiment fait en termes d'explosion offensive. Donc...
Allez, Giants pour tout le monde. Titans, 4 victoires, 5 défaites. Chiefs, 6 victoires, 3 défaites. Patrick Mahomes est sur le retour au moment où on se parle. Il n'est pas officiellement titulaire, mais il s'entraîne. Ça a l'air plutôt bien parti. Donc, si Patrick Mahomes est là, il y a clairement une différence de dynamique entre les deux attaques, pourrait-on dire, entre Ryan Tannehill et Patrick Mahomes, si je, toute proportion gardée. Les Chiefs marquent 10 points de plus par match en moyenne.
À la décharge de Tannehill, il n'a pas autant d'armes que, que celle des Chiefs, à sa décharge.
Mais bon, si les Chiefs sont à pleine puissance, a priori, c'est quand même très compliqué.
Oui, c'est très compliqué. On l'a vu même la semaine dernière avec Matt Moore face à la défense des Vikings. Ils trouvent quand même des solutions offensives. Donc là, une défense des Titans un peu moins bonne que celle des Vikings. Et qui ne semblent pas forcément avoir les armes offensives, en tout cas pour répondre et suivre les Chiefs dans un combat de points, Kansas City. Ouais.
Je divaguais en regardant un peu les Chiefs. Je me disais, est-ce qu'à l'avenir, pendant des années, on va dire la même chose des Chiefs qu'on disait des Patriots ? C'est-à-dire, la tactique, c'est de les priver de ballon, de courir, de bouffer le chrono.
Ça pourrait le devenir, ouais. Ça pourrait être clairement une de ces équipes face à laquelle tu cours. Ouais, effectivement.
C'est en train de devenir un peu pareil. La petite stat insolite, Andy Reid est à 1 victoire, 6 défaites contre les Titans en carrière. Il n'y a pas beaucoup d'équipes contre lesquelles il doit être en négatif,
non,
à mon avis.
Beaucoup.
Et à ce point-là, je trouve ça étonnant. Donc, je ne sais pas, il avait peut-être peur de Jeff Fisher à une époque.
Bah oui, surtout qu'en plus, le coaching staff des Titans se renouvelle. Ce n'est pas contre le même coach qu'il perdrait tout le temps. Tu vois,
il a perdu contre Jeff Fisher, a priori. Donc, pourquoi tout arrive.
Ça arrive. Hein.
Les Buccaneers, 2 victoires, 6 défaites. Les Cardinals, 3-5-1. Les Cardinals, c'est 4 ballons perdus cette année. Les Buccaneers, 18. Pour donner un petit, une petite stat pour situer la rencontre.
Pour nous dire que Kyler Murray est déjà bien plus consciencieux avec le ballon que James Winston en 6 matchs.
Tu te rends compte que 4 ballons perdus pour les Cardinals au total sur toute
avec
l'année.
Avec un quarterback rookie, c'est
avec
c'est
un quarterback
bien,
rookie, ça veut dire qu'ils ont perdu moins de ballons sur toute l'année que James Winston sur le match il y a 2 semaines où il en avait perdu 5. Donc bon, ça situe. Les Buccaneers sont toujours statistiquement, en tout cas, la meilleure défense contre le sol.
Oui, mais ils défendent bien. Hein, ils ont quand même une ligne défensive, mine de rien, où Ndamukong-Suh, on voit encore qu'il produit. Jason Pierre-Paul est revenu la semaine dernière. Franchement, ça défend bien la course. Après, à Arizona, c'est une équipe qui passe beaucoup, qui a plus tendance à passer par les voies aériennes.
Ils se font pas mal équilibrés quand même.
Ils s'équilibrent un peu plus, et je pense que là, en plus avec Kenyan Drake qui vient d'arriver, ça va encore plus équilibrer la chose. Malgré tout, je vais aller vers Tampa Bay parce que je pense qu'ils peuvent faire exploser offensivement les Cardinals. Mais bon.
C'est vraiment,
Mais je pleure déjà en mettant ma vie et ce concours de pronos en jeu dans les mains de James Winston.
Là, ça sent la semaine audacieuse. Hein.
Ouais, c'est. Allez.
Mais je peux comprendre. Ça se tient. Honnêtement, ça se tient. Moi, je vais prendre les Cardinals parce que je suis très attaché au ballon perdu cette année et que James Winston est un peu une bombe à retardement. Ça se joue à Tampa. Non, j'aurais été plus rassuré si c'était en Arizona. Mais. Comme tu dis, il y a des arguments parce que leur attaque, elle est très dynamique. Ils ont Mike Evans, ils ont plein de choses.
Ils sont capables de mettre des points.
Ils peuvent mettre des points. Et c'est vrai que s'ils embarquent Kyler Murray dans un truc un peu plus rythmé et où il faut prendre un peu plus de risques, peut-être qu'il va finir par en lâcher. Mais ça implique que James Winston ne perd pas de ballon dès le premier quart-temps. Quoi.
Face à Chandler Jones, c'est vrai que ça peut être une inquiétude aussi.
Je vais prendre les Cardinals, mais c'est un peu pile ou face. Les Saints, 7 victoires, 1 défaite contre les Falcons, 1 victoire, 7 défaites, 2 équipes qui sortent de semaine de repos. Les Falcons ont l'attaque qui produit le plus de yards à la passe dans la ligue, mais en même temps ils ne marquent que 20,6 points par match.
Ouais, et puis ils produisent des yards parce qu'ils sont souvent derrière au score et ça bombarde pour essayer de rattraper.
Mais alors après, de toute façon, la différence entre ces deux équipes, c'est la défense. Les Saints sont 5e, les Falcons sont 24e. Et il y a même dans l'impression, dans tout, il y a un monde d'écart. Donc a priori, Drew Brees. Avec retour d'Alvin Kamara, annoncé juste avant qu'on enregistre.
New Orleans
aussi. Coup d'envoi 22h05. Colts 5 victoires, 3 défaites. Dolphins 1 victoire, 7 défaites. Les Dolphins ont donc gagné un match. Ils ne sont plus fanny. Après, même avec Brian Hoyer en face, bon, c'est pas les Jets. Ça reste les Colts avec une vraie ligne offensive, bien plus une défense appliquée, organisée, bien coachée.
Bien plus appliquée. En plus, Miami a vraiment du mal sur son pass rush. Je ne vois pas très bien ce qu'ils vont faire face à cette ligne offensive des Colts. Clairement, Indianapolis est bien favori. Je vais partir sur les Colts. Ouais.
Les Colts également. 22h25, Steelers 4 victoires, 4 défaites. Rams 5 victoires, 3 défaites. La défense des Steelers très agressive ces dernières semaines. TJ Watt 7 sacs et demi, 11 interceptions au total. Ils sont 3e en NFL.
Ah, ils sont bien.
Ouais.
Défensivement.
Est-ce qu'ils ont un coup à jouer du coup dans ce match?
Ils ont un coup à jouer parce qu'on a vu, en tout cas avant la semaine de pause et depuis le début de saison des Rams, la ligne offensive des Rams était un vrai problème pour Jared Goff. Il y a peu de raisons que la semaine de repos ait totalement changé la donne, donc ils vont pouvoir à nouveau enchaîner les sacs avec Kaze Ward, TJ Watt, tout ça. Ils peuvent le faire douter, forcer des mauvaises passes, on voit qu'ils sont capables d'intercepter. Malgré tout, j'ai peur que eux offensivement soient un peu justes face à la défense des Rams, qu'ils aient un peu de mal. Mais une défense des Rams, on le dit pas trop parce qu'on est concentré sur le mauvais niveau offensif, mais une défense des Rams qui est bonne depuis ce début de saison, en tout cas qui est bien meilleure que l'an dernier, je trouve, en saison régulière. Du coup, je vais aller sur Los Angeles, mais aller sur Los Angeles.
On parlait de playmaker avec certaines équipes. Moi, je vois ça aussi dans le pronostic. C'est Jalen Ramsey, Aaron Donald face à Mason Rudolph.
Ouais, non, mais ça aura forcément un impact à un moment.
Donc, je vais aller sur les Rams pour ça aussi. Packers, 7 victoires, 2 défaites. Panthers, 5 victoires, 3 défaites. Green Bay qui sort d'un non-match. Le défi, il est clair, stopper Christian McCaffrey. C'est pas forcément évident. Ils sont dans le dernier tiers de la ligue contre la course, les Packers. Est-ce que les Panthers auraient un coup à jouer sur ce match? Alors, c'est à Green Bay.
Oui, les Panthers, Green Bay, en plus, on a vu des images cette semaine. Ils commencent déjà un peu à neiger à Green Bay. Ce qui peut donner un match assez sympa. Non, mais tu l'as dit, il faut bloquer Christian McCaffrey. J'ai du mal à savoir parce que Green Bay a tellement fait un non-match la semaine dernière que je pense pas que ce soit leur niveau véritable, on va dire. Et j'ai l'impression qu'ils ont malgré tout plus d'armes à l'heure actuelle que les Panthers, que ce soit en attaque ou en défense. Mais les Panthers, dans un gros jour de McCaffrey, peuvent faire de bonnes choses. Je vais aller sur Green Bay.
Après, je pense qu'il y a un point faible au sol dont on avait parlé chez les Panthers dans l'émission de mardi, que les Titans n'avaient pas exploité du tout.
Ouais.
Je pense que si les Packers...
Normalement, ils doivent l'exploiter.
Intelligemment, ils vont y aller avec Aaron Jones, mettre en place Aaron Rodgers. Donc Green Bay me semble avoir les armes aussi là-dessus. Et puis Kyle Allen reste quand même un quarterback assez jeune. Le Lambeau Field, s'il fait froid, ça peut vite se compliquer.
C'est un match quand même important pour les pour la Bayou, enfin pour les places en wild card, parce que dans une division il y a aussi Minnesota pour concurrencer Green Bay et les Carolina Panthers qui sont plutôt pour aller chercher une 5e, 6e place. Si les deux doivent
potentiellement... c'est un beau match.
Ça peut avoir son importance à la fin de saison.
C'est vrai que c'est un match avec importance play-off. Ouais. Même chose d'ailleurs, importance play-off dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20. Cowboys, 5 victoires, 3 défaites. Vikings, 6 victoires, 3 défaites. Donc les Vikings, tu le disais, qui sont juste derrière les Packers.
Peut-être même plus pour ces deux équipes.
Au classement, eux, ils sont les Cowboys. Alors les Cowboys ont l'avantage d'être dans une division plus faible. Donc eux jouent encore leur titre de division avec les Eagles derrière. Donc belle affiche qu'on pourrait retrouver en play-off peut-être. Beau duel avec des profils assez similaires. Gros jeu au sol, Dalvin Cook et Ezekiel Elliott. Des bonnes défenses, quarterback bon, mais qui peuvent être facteur X selon les matchs, j'ai envie de dire.
Des receveurs de talent.
Des receveurs de talent, c'est vrai. Mais j'ai l'impression en fait que Minnesota est juste au-dessus dans toutes les catégories qu'on cite. C'est-à-dire receveurs de talent, Thielen et Diggs. Alors même si Thielen est blessé et qu'on n'est pas sûr de l'avoir. Défense, j'ai l'impression que c'est un peu plus solide dans l'ensemble.
Dans l'ensemble, ouais. Je trouve ça un peu plus solide, effectivement, même si le pass rush...
T'as Everson Griffin et t'as quand même Daniel Hunter.
C'est vrai.
Tu vois, je les trouve un peu plus... Ouais. C'est un peu plus solide, même si les Cowboys ont eu des temps forts, mais ça a été un peu plus irrégulier ces derniers temps. Et tu vois, dans les stats, 28 sacs pour les Vikings, 22 pour Dallas, 8 interceptions pour les Vikings, 4 pour Dallas, c'est un tout petit peu meilleur.
J'ai juste un problème sur ce match, clairement, c'est l'attitude de Kirk Cousins qui risque d'être sous pression malgré tout face au pass rush de Dallas. C'est à l'extérieur, on l'a pas toujours vu.
Et en prime time, si tu veux le.
Ouais, on l'a pas toujours vu très à l'aise dans ces situations-là. Si jamais le jeu au sol des Vikings est un peu bloqué, que de l'autre côté, Ezekiel Elliott avance un peu et qu'il faut aller chercher le match, je suis pas totalement rassuré. Et c'est pour ça que je vais partir sur les Cowboys, allons-y.
Non, mais il a un certain. Celui-là, il est pas facile. Hein. Il y a beaucoup de matchs.
Je vais aller sur Dallas. pour ces raisons-là, j'ai encore quelques inquiétudes sur Kirk Cousins et je me demande si ça peut pas être un...
Franchement, moi j'y vais sur les Vikings, mais je suis pas beaucoup plus convaincu que toi, tu vois, dans mon choix. C'est pareil, si Cousins craque un peu, si c'est à Dallas, je vais dire les Vikings parce que je les trouve un tout petit peu supérieurs dans certains niveaux, même si Amari Cooper. Après, si Thielen n'est pas là et que c'est Cooper contre Diggs, Cooper il a pas à rougir. Hein.
Ah non, il a pas à rougir. Non.
Donc,
il y a duel.
Donc non, sur la foi de la défense des Vikings et de quelques coups d'éclat, je vais dire Minnesota. Coup d'envoi dans la nuit de lundi à mardi, 2h15 du matin, c'était notre affiche de la semaine entre les Niners à 8 victoires, 0 défaites et les Seahawks à 7 victoires et 2 défaites. Tu as donc donné
Seattle,
les Seahawks et San Francisco. Pour moi-même, on a une grosse semaine de repos. Denver Broncos, Houston Texans, Jacksonville Jaguars, New England Patriots, Philadelphia Eagles, Washington Redskins. 6 équipes au repos, c'est le maximum. C'est la plus grosse semaine de repos de l'année. On passe au code de la semaine. Les meilleures cotes NFL, c'est avec notre partenaire Unibet toutes les semaines. Vous en avez l'habitude. Raphaël, je te laisse donner ta première cote et elle est raccord avec ton pronostic.
Elle est raccord avec mon prono. Je vois Seattle créer la surprise. La dernière fois que j'ai checké, ils étaient à 2,35.
2,85.
Ah ben voilà, en plus. Moi, ça me paraît un match prenable pour Russell Wilson. À 2,85, une belle petite cote qui se tente.
Ils sont pas favoris, mais ils ont un mec qui est en course pour le MVP. C'est le moment où normalement tu fais les gros gains.
C'est le moment
où tu fais les grosses cotes. C'est normal. La deuxième cote, elle est pour moi et c'était donc les Vikings à 2,20. Match un peu pile ou face à mon sens contre Dallas. Un match dont ils sont un outsider avec une belle cote à 2,20 sur une équipe qui est quand même à 5-3 ou 6-3.
5-3.
Donc ça reste quand même honorable ce genre de cote sur une équipe bien classé, donc les Vikings pour moi, et on va compléter avec la cote bonus. C'est pareil, c'est une équipe qui est bien classée, les Bills sont à 6-2, et pourtant ils sont outsiders, 2-10 de cote contre les Browns.
Ils sont outsiders parce qu'ils sont à l'extérieur, ils voyagent moins bien clairement, et puis je pense que certains continuent de croire que Cleveland va finir par se relancer.
Je pense que on est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on croit que les Bills ont pas toujours assez en attaque et que Cleveland va se relancer. Donc je comprends qu'ils soient outsiders. Mais les Bills nous font tout le temps mentir. Si vous pensez qu'ils vont encore nous faire mentir, la cote est à 2,10. Le combiné de tout ça, eh bien, ça nous fait 10 € misés, 131,67 € de gain potentiel. C'est un beau combiné.
C'est un beau combiné.
Avec que des équipes qui ont au moins 5 victoires cette année.
C'est vrai.
Donc c'est pas mal. Le YOLO. Alors le YOLO du coup, il est pas si dingue que ça cette semaine. On a essayé d'être il y a beaucoup de matchs pile ou face, on va pas se mentir. Donc Seahawks, Vikings, Bills dont on a parlé. On a les Cardinals derrière à 2,50 contre les Buccaneers.
Ah clairement ça.
Voilà. Oui. Là, mais quand je dis pile ou face, c'est Jameis Winston.
Oui,
vous attendez que Jameis Winston vous fasse gagner de l'argent. Les Lions derrière sont à 2 contre les Bears.
Oui.
Tout à fait.
Une équipe de Chicago qui, la semaine dernière, était à un yard à la mi-temps. C'est ça.
Donc, tout à fait jouable. Et les Giants, on a pris dans le duel de New York, on a préféré prendre les Giants. Alors, les Jets ont une meilleure cote. Ils sont à 2. Les Giants sont à 1,60. Mais bon, ça nous semble plus Giants. Et comme on avait déjà que des cotes au-dessus de 2 dans le YOLO, on s'est dit on va mettre les Giants pour adoucir le lot. Donc, ça nous fait quand même un petit YOLO sympa de 10 € misés et 1157,70 € de gain potentiel. C'est pas mal,
c'est pas mal,
ça fait un mois de loyer dans un 50 mètres carrés dans les arrondissements, pas du centre, mais dans le 15e, quoi.
Pas du centre,
voilà.
Bon, ouais, fin 15e,
Bon, ici les Moulineaux, quoi. Bon. Mais bon, ça fait un mois de loyer.
C'est toujours bien à prendre.
C'est toujours ça de prix. Donc, un YOLO, encore une fois, cette semaine, qui me semble un peu plus objet. Je garde l'espoir qu'on en passe un.
Mais celui-là...
Franchement, je sais qu'on le dit, on l'a déjà dit, mais il n'est pas si dingue. Donc je pense que celui-là... Je vous dis, c'est un YOLO, donc dans les faits, à chaque fois...
Son aspect le plus YOLO, c'est qu'il y a Jameis Winston dedans.
C'est ça.
C'est clairement le facteur YOLO.
On a quand même fait un YOLO sans les Dolphins dedans. Parce que c'est quand même l'équipe YOLO de l'année cette année. Mais bon. Voilà donc pour l'épisode numéro 319 du podcast Jeune Action. Je vous rappelle que l'émission du jeudi vous est présentée par Unibet. Notre partenaire pour les paris en ligne. Je ne sais plus ce que je dis quand je tiens un mug en même temps, visiblement. Voilà, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Je ne peux pas tenir un mug et annoncer l'annonceur. Je savonne de fou aujourd'hui, falloir, c'est terrible. Hein. Bon, c'est l'heure du.
C'est l'hiver.
Ouais, c'est l'hiver, le week-end qui approche, le plombage qui est tombé, le mal aux dents, je ne sais pas. Mais j'ai... Voilà, bon. Donc, le mec qui raconte sa vie en même temps. Donc, en tout cas, Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne, n'hésitez pas à y aller, passez par les liens qui sont sur le site. Et en plus, cette année, vous pouvez regarder les matchs en streaming si vous avez un compte crédité. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment tout bénef. Merci beaucoup, Raphaël.
Merci à toi.
Et puis, on se retrouve donc mardi pour le débrief, évidemment, de tous les matchs dont on a parlé. Si vous voulez qu'on se voit avant les matchs, c'est dimanche, c'est dans le fauteuil à 18h. Visiblement, le thème de la semaine, ce sera les plus gros buzz de l'histoire, puisque quelqu'un l'a suggéré sur Twitter et que je ne l'ai jamais fait. À mon grand étonnement, j'ai débriefé un peu les anciens. Apparemment, je ne l'ai pas fait. Je vais revérifier.
Je crois qu'on a déjà le numéro 1, mais...
Ouais, c'est possible. Donc, on parlera des buzz, c'est dans le fauteuil dimanche à 18h. Le répondeur, je crois, c'est Camille qui fait défiler les bandeaux. Voilà, message vocal sur WhatsApp. Si vous voulez réagir au match, 06 52 21 65 36. J'ai l'impression de travailler dans une radio de jeunes, tu sais, quand je donne les numéros au téléphone. Et puis, je crois qu'on est bon au niveau des bandeaux, Camille. J'arrive aux réseaux sociaux, c'est ça ? Voilà, je ne sais plus où j'habite aujourd'hui. Donc, les réseaux sociaux pour nous suivre, c'est donc TD Actu sur Twitter et Facebook, @TouchOnActu sur Instagram, Raphaël_TDA pour Raphaël sur Twitter, @CamilleSaraben pour Camille et @AlainMattei. Pour moi-même, le site c'est tdactu.com. On l'a dit, on se retrouve jeudi à 18h. Voilà, je ne vais pas y arriver.
Dimanche
à 18h dans le fauteuil, mardi pour le débrief. Oui. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup, Camille Saraben, à la technique. À très bientôt. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tagliatelle au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.